Bonjour, c'est Rose de Lyon, près de Lyon. Je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous retrouver. Vous m'avez beaucoup manqué, cher Daniel et puis toute ton équipe, ainsi que d'autres journalistes que j'aime beaucoup à France Inter. Je suis une fidèle auditrice depuis de nombreuses années. C'est vraiment une radio de qualité le plus souvent. Mais j'ai pensé quand même tous les jours à tous ces grévistes, à vous tous. Et bon, j'ai cru entendre que ça s'est pas trop mal fini. Bon, 19 jours ou 18 jours, c'est terrible quand même. C'est vraiment un dur combat, mais je vous ai soutenu dans mon cœur tout le temps. Et vraiment très heureuse que vous y soyez arrivés quand même, au le mieux possible, j'espère. Et continuez, merci à toutes vos, pour toutes vos émissions de qualité. Et vive vous tous et au revoir.
Bonjour, Pierrette du Lot. Je dis bonjour à tous les auditeurs, à toute l'équipe. Et s'il s'avère que des auditeurs veulent râler au sujet de la grève, je voudrais qu'ils essaient de calculer combien ça fait 18 jours de grève, pardon, sur un petit salaire. Plus de la moitié amputée. Eh ben, je suis de tout cœur avec vous, ceux qui avaient fait grève, parce que, vous êtes forts. Vous êtes forts. Et puis, acceptez mon admiration. Et s'il y a une boîte, bon, je suis travailleur à mi-temps, moitié chômeuse, j'ai 59 ans. Mais si vous avez une boîte, eh bien, je veux bien vous donner une petite part de mes indemnités de chômage pour vous aider. Je vous embrasse à tous. Au revoir.
À Paris, au 67 rue de Turbigot, à l'annexe de la Bourse du Travail, j'ai appris qu'il y avait 12 hommes qui faisaient la grève de la faim depuis le 17 mars. Et cette grève ferait suite à une tentative des forces de police d'arrêter dans certaines écoles de Paris des enfants d'immigrés sans papier. Alors je n'ai trouvé aucun texte dans la presse et en fait mon message est plus une question pour être informé. Que savez-vous de ces actes qui font penser à des choses déjà vues, des rafles d'enfants dans les écoles?
Salut, c'est Antoine, j'ai 12 ans, je voudrais dire... Qu'il faut voter oui pour l'Europe, oui, parce que c'est notre avenir un peu, et donc voilà, il faut voter oui. Ciao.
Bonjour Daniel, je souhaitais réagir à l'émission que tu passes aujourd'hui, le vendredi 22, au propos d'un des partisans de la Constitution qui avançait que cette Constitution nous offrerait un cadre juridique et que c'était pas grave si on votait oui ou non, qu'on pourrait ensuite voter des lois sociales qui nous permettraient d'avoir un cadre social plus sympathique pour la France et l'Europe. Je souhaitais simplement lui rappeler que le texte, faudrait qu'il le lise jusqu'au bout et qu'il lise au moins la troisième partie où on retrouve exceptionnellement dans une constitution toutes les lois que l'Europe nous a pondues ces dernières années et que nos hommes politiques, nos chers hommes politiques, ont soi-disant été obligés de suivre parce que c'était l'Europe qui les obligeait de suivre ces lois. Et ces lois, à l'époque, nous avaient déjà fait dresser les cheveux sur la tête. Et aujourd'hui, avec cette constitution, le fait d'inclure ces lois dans cette constitution, si on votait oui, on les inscrirait dans la constitution. Et donc, on donnerait notre satisfecit à toutes ces lois qui nous ont, à l'époque, bien embêtés. Eh bien, l'Europe a servi de bouc émissaire à l'époque à tous ces hommes politiques. Et je pense que aujourd'hui, si on vote oui, c'est nous qui bêlerons dans les temps prochains. Merci, au revoir.
Salut, j'appelle pour dire qu'il faut absolument voter oui pour l'Europe. Il faut penser aux autres et à nos enfants et pas penser qu'à son porte-monnaie dans l'immédiat. Il faut penser qu'il faut partager tout ça pour être très fort et que ensuite, quand on sera tous une grande puissance européenne, eh bien, ça sera beaucoup mieux pour chacun. À bientôt, bye.
Bonjour, je suis en train d'écouter votre radio là. Ce matin, on est lundi. Ben, je sais pas ce qu'il en est pour Paris 2012, mais pour le référendum, c'est clair, hein, c'est France Inter, partenaire officiel du oui. Hein. Quel bourrage de crâne. Allez, bonne journée.
Bonjour, c'est Christine de la Creuse. Je suis ravie de vous retrouver, enfin. Et je voulais simplement vous dire ma stupéfaction, enfin mon envie de rigoler, parce que maintenant, pour qu'on vote oui, ils ratissent large, ils promettent aux chasseurs 10 jours de chasse aux oiseaux supplémentaires. Ça me fait vraiment marrer. Et vous allez voir que lors des élections, ils vont donner un billet de 5 euros avec le bulletin oui. C'est vraiment prendre les Français pour des cons, voilà. Au revoir, merci.
Oui, bonjour, c'est Julie de Meurthe-et-Moselle. Voilà, je viens d'écouter votre émission qui était très bien construite. D'ailleurs, je est très représentative de ce qui peut se passer dans les gardes à vue. Et ça m'a amené à me poser une question. Est-ce qu'il existe des associations, des gens comme ça qui aident les familles des victimes de ces abus de pouvoir, en fait? Est-ce qu'il existe des contacts où on peut se faire aider comme ça pour mieux se faire défendre? Comment on peut aider ces gens-là? Voilà. Ciao et merci pour vos émissions.
Oui, bonjour. Je suis Jacqueline Le Guerne, j'habite Boulogne. Je viens d'écouter l'émission et j'aurais aimé avoir les coordonnées. J'ai pas eu le temps de noter les coordonnées pour écrire une lettre en faveur de Kamel. Que puis-je faire? Je vous remercie beaucoup de que je puisse avoir ces coordonnées. Au revoir.
Alors, soutien à Kamel Belkadi. On peut écrire à ULCGT Longwy, 132 rue de Metz, 54 403 Longwy, ou par email ULCGT Longwy, tout attaché, ULCGT Longwy, @wordonline.fr. Voilà. Ça, c'est une première précision. Et seconde précision, pour les auditeurs ou auditrices qui veulent soutenir les grévistes de Radio France, au bout de 19 jours de grève, la participation à la caisse de grève, on peut libeller des chèques à l'ordre de solidarité grève à envoyer au CEPIDF, 116 avenue du Président Kennedy, 75-220, Paris, CEDEX 16. Il y a également une adresse email pour signer la pétition. Pétition Radio France, tout attaché, pétitionradiofrance@ras.eu.org. Et tout ça, ce sera sur le site France Inter où toutes ces précisions vous sont données. Voilà, aujourd'hui on continue la belle histoire, la magnifique histoire de Diwu, l'histoire de Kim et de Kamel, résumé pour ceux qui ont manqué hier la première séance.
La Lorraine se souviendra longtemps de l'échec d'Ewu. Il y a 13 ans, trois usines devaient permettre la reconversion de centaines de personnes dans cette région sinistrée par la crise de la sidérurgie. Mais Daewoo Électronique a fait faillite et les trois usines viennent de fermer. Notamment celle de Mont-Saint-Martin où 550 salariés fabriquaient des tubes pour téléviseurs. Cet hiver, pendant plusieurs semaines de lutte radicale, les salariés ont occupé leur usine.
Si la garantie elle part, j'ai aucune garantie.
La garantie des grévistes, c'est cet homme, le directeur coréen de l'usine. Il sera libéré au bout de 36 heures. Les salariés réclament des indemnités et de meilleures mesures de reclassement. Criblées de dettes, toutes les usines Daewoo Électronique dans le monde vont fermer. Comptes truqués, détournements, corruption, le scandale Daewoo est comparable à 4 fois celui d'Enron. Les grévistes sont d'autant plus exaspérés que la France a largement subventionné l'implantation de Daewoo en Lorraine.
Ça a coûté 1 million de francs par emploi. Ça veut dire, on t'aurait donné le million de francs là, tu restais chez toi, c'était pareil.
En 1986, Jacques Chirac, alors Premier ministre, fait appel aux Sud-Coréens lorsqu'il annonce son plan de relance industrielle. Pour sauver les emplois de Lorraine, l'État va beaucoup aider l'implantation de Daewoo. Entre 1989 et 1998, le groupe va bénéficier sous les gouvernements de droite comme de gauche de 46 millions d'euros d'aides publiques françaises et européennes. La France va aussi entretenir des relations étranges avec Kim Woo-chang, le sulfureux PDG de Daewoo. On le surnomme Chairman Kim, le patron Kim. Un temps génie des affaires, il a bâti un empire avec 200 000 employés. Électronique, automobile, textile, aucun secteur ne lui échappe. Mais Chairman Kim est rattrapé par la justice coréenne pour corruption. Il a versé 19 millions d'euros de pot de vin au président de la République sud-coréenne. Scandale national. Monsieur Kim aurait également détourné entre 20 et 35 milliards d'euros. Il est condamné à 2 ans et demi de prison, mais il disparaît à l'étranger avec la caisse. Parmi tous les privilèges accordés par la France, il a obtenu la nationalité française en 1987. Alain Juppé l'avait même fait commandeur de la Légion d'honneur avant d'envisager un moment de lui brader Thomson Multimédia pour un franc symbolique. À l'époque, l'affaire avait fait scandale. L'idée sera finalement abandonnée.
Salut, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin. Là-bas, si j'y suis, Kim et Kamel.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a une grande affiche hein, avec en photo une personne qui semble d'origine coréenne. Qui est cette personne?
Bah, c'est Kim Ho-chung, c'est l'ex-président directeur général du groupe Daewoo qui vit des jours heureux en France, qui a été naturalisé français en 87. Merci Chirac, merci Juppé, enfin merci tout le monde quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est recherché par Interpol, mais du fait de sa naturalisation française, on peut pas l'extrader.
L'affiche, en fait, c'est marqué en très gros « avis de recherche ». C'est marqué en dessous « Korean Metal Workers Federation
voilà. ». Federation. Le KCTU, voilà, syndicat coréen. Voilà.
Et puis ensuite, il y a marqué « La personne ci-dessus a, en raison de sa mauvaise gestion et du versement des pots de vin aux fonctionnaires corrompus, causé la faillite du groupe Daewoo en août 1998, ce qui a menacé la survie des combien de travailleurs ?»
Alors 700 000 à 2 500 000 travailleurs coréens, ainsi que les emplois des travailleurs de Daewoo Motors en Pologne, au Royaume-Uni et au Ouzbékistan, auxquels il faut rajouter aujourd'hui donc tous les emplois Daewoo en France, quoi, puisqu'il y avait 3 entreprises de Daewoo en Lorraine et donc qui regroupaient plus de 1100 travailleurs.
Est-ce que vous connaissez Kim Ho-chung?
C'est le boss coréen, non? C'est le boss coréen qui est recherché par Interpol Corée et qui vit dans le sud de la France.
Il est recherché pour quelle raison?
C'est pas la même raison que moi.
C'est le pire bandit qu'on connaisse au niveau du groupe Daewoo et par contre lui on le laisse tranquille peinard. La justice elle s'en inquiète pas et puis Kamel, il a la tête de l'emploi donc voilà quoi, il faut bien trouver un coupable.
Et là il est légion d'honneur aussi, il faut le dire.
Toi, t'as pas eu la Légion d'honneur, Kamel?
Non, j'ai la Légion de rien du tout. Moi. Au contraire, ils m'ont tué mon honneur. Et...
Toi, tu gagnais combien quand t'étais à l'usine des Wu où tu fabriquais des tubes cathodiques, Kamel?
À peu près 1000 francs, touché.
1000
euros. Assez avec l'euro, le français. On m'a dit que j'étais riche en graisse.
Et parce que t'as un peu dans bon point, c'est ça. Le halal, c'est pas si bon que ça pour le régime.
Voilà, c'est Kim et c'est Kamel. Quelle différence y a-t-il entre eux? Tous deux sont français, Kamel Belkadi et Kim Ho-chung. Oui, tous les deux français. Kamel est fils d'immigrés, issu de l'immigration, issu de la colonisation. Et il est tout ce qu'il y a de français. Et Kim Ho-chung, le Sherman Kim... Eh bien, lui aussi, il est français, on vient de le dire et de le redire. Il a acquis, il a été naturalisé français en 1987 par la grâce de notre actuel président de la République qui l'a fait français, lui et sa famille. Ce qui prouve que, malgré tout, la France est tout de même une terre d'asile puisque des gens d'origine lointaine ou proche, mais étrangers en tout cas, peuvent tout à fait devenir français. Alors bien sûr, il y a les malins, les resquilleurs qui passent un petit peu à travers champs, et puis il y a ceux qui, enfin, chacun son rythme. Et puis, on le sait, dans notre beau pays, chacun est libre de faire comme il veut, ce qu'il veut, c'est la vie, c'est ainsi. Alors hier, on a évoqué la success story de Sherman Kim, le grand patron coréen, aujourd'hui, comme on l'a dit, poursuivi par Interpol, par les syndicats, par tous les syndicats coréens, pour avoir détourné au moins 3 milliards de dollars, d'avoir surévalué le groupe Daewoo afin d'obtenir des prêts des banques. Tout ça s'est évalué à environ 70 milliards de dollars. Oui, tout à fait. Un trillionnaire à lui tout seul, monsieur Kim Ho-chung, qui effectivement vit toujours en France. On le verra demain, on vous racontera sa vie paisible aujourd'hui parmi nous. Alors, le naufrage de Daewoo, alors il y a eu le naufrage de Daewoo à travers le monde. Au moins 700 000 travailleurs ont été licenciés. Avec les sous-traitants et les conséquences, on évalue à 2 500 000 le nombre de travailleurs qui se retrouvaient
au tapis. Et puis, autour de Longwy, eh bien, il y a eu plusieurs usines qui ont fermé, celle de Famec, celle de Villers-la-Montagne et celle de Mont-Saint-Martin. Et c'est celle de Mont-Saint-Martin qui nous intéresse à nouveau aujourd'hui, puisque c'est là qu'il y a eu la fameuse histoire de l'incendie. Il y a eu un sinistre dans l'usine d'Iwou et les... Alors on s'est interrogé, est-ce qu'il... de quelle origine est le sinistre, accident ou mauvaise intention, et on a retenu l'idée de la mauvaise intention, et celui qui a eu cette mauvaise intention, eh bien, c'est Kamel. Alors, ils se ressemblent, ces deux hommes, parce que chacun est poursuivi par la justice. Kamel est poursuivi, il a été condamné en première instance en septembre 2004, et récemment, tout récemment, le 5 avril dernier, en appel, son affaire est passée et cette fois-ci, l'expertise a un petit peu plus avancé, l'enquête a un peu mieux fonctionné et il y aurait comme une sorte de bémol. Il y aurait comme une sorte de bémol, l'avocat général, même si le jugement n'a pas encore été rendu, il sera rendu le 24 mai prochain, l'avocat général, je le disais hier, a estimé, je cite, bien que ce soit le procès de Belkadi, c'est-à-dire de Kamel, il y a aussi une affaire qui est l'affaire d'Iwou. Ah, oui, quand même, il y a deux hommes, Kim et Kamel, mais il y aurait comme deux poids et deux mesures. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, jusqu'à 18h, là-bas si j'y suis, sur France Inter, l'histoire de Kim et de Kamel.
C'était un petit ouvrier qui travaillait pour se payer des petites vacances dans l'été. Sans prétention en profiter. Mais les choses ont bien changé. Le bonheur n'est plus dans l'acier. Le plan social lui fut fatal. Les actionnaires se sont sucrés. Licencié v'là qui picole. La corde coule, c'est flingué, y'a personne pour pleurer. C'est la loi du marché. Tu peux pas y échapper. C'est comme un train en marche. Et tu peux pas sauter, va falloir t'allier. C'est la loi du plus fort. Tu t'écrases pas, t'es mort. C'est comme ça sur notre planète. Y'en a qui trouvent ça chouette. Moi je dis, c'est bête.
Lolé, lolé.
Et toi? Et toi? Et lui? Et toi le petit spéculateur? Ton portefeuille grossit sans pudeur. Tu dis que l'argent n'a pas d'odeur. Tu fais ton beurre sur le malheur. Mais quand les choses ont-elles changé? Leur pouvoir s'est mondialisé. Les grands trusts et leur monopole. Des cannibales ont dimanché. La planète est sous leur contrôle. Société déshumanisée, tous prisonniers du marché.
Alors là, Kamel Belkadi, on quitte l'usine des Houx qui se trouve à Mont-Saint-Martin et on se rend au magasin où vous travaillez.
Bon, on arrive à Longwy là. Ah, là, c'est le cinéma. Utopolis. Ils ont fait un grand cinéma.
Alors, c'est là que travaillait ton père avant, quand c'était une usine de sidérurgie La Chière.
Voilà, c'est tout le long de qu'on a passé là, c'était une grande usine quoi. Il y avait je sais pas combien de personnes, mais c'était vraiment une grosse usine quoi. Et maintenant, il n'y a plus rien. Quand elle a fermé, c'était vraiment la ville morte, quoi. Ils ont appelé la vallée de la mort.
Donc dans toute la vallée, là.
Toute la vallée, ouais.
C'est-à-dire qu'il y a les maisons des ouvriers et puis sans doute des ingénieurs qui sont placés sur les coteaux des collines enneigées. Et dans le creux de la vallée, c'était l'usine qui était tout le long.
Voilà, c'est ça. On paraît qu'il y a un truc de... Ils vont faire un coffre. un jeu de golf là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il va jouer dedans. Il y a pas ça. Il y a que des chômeurs. Il n'y a plus d'entreprise, il n'y a plus rien sur la région.
C'était quoi comme boîte ici?
Bah c'est la fonderie, ils font tout ce qu'il y a avec le fer. Mon père l'a travaillé ici, tout le monde a travaillé, tous les étrangers qui sont venus de... Mon père est venu à l'âge de 16 ans pour travailler ici en France, il est venu à Paris et après il est venu ici, quoi. Il a travaillé toute sa vie. Il était brûlé deux fois dans sa jambe avec la fonderie. Et Dieu merci, bon ça va, maintenant il est à la retraite. Enfin, ils l'ont mis à... Il y avait une autre usine à Gourcy, pareil, c'est à peu près 10 km d'ici. Et à la ferme aussi. Et là j'ai vu la télé il n'y a pas longtemps, il y a aussi une... la dernière entreprise, ils font du fer avec, là, et à la ferme il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours en arrière. Là.
Et ton père, il a retrouvé un emploi ensuite, suite aux deux fermetures d'usine qu'il a connues?
Ils l'ont proposé là, après retraite, et il a accepté, quoi. Il m'a toujours motivé de ne pas rester à la maison. J'ai fait tout, même femme de ménage, il me dit va prendre femme de ménage, c'est avec ça, va le prendre. J'ai travaillé femme de ménage, j'ai tout fait. Dans des foyers, en intérim, hein, ils m'ont envoyé, par exemple, il y avait un foyer qui était inondé à Longuillon, ça trouve à peu près une vingtaine de kilomètres. C'était inondé par rapport à la pluie. Bon, j'étais là-bas pour enlever l'eau, quoi, pour nettoyer. Quand j'étais en prison, quand j'ai vu, il y a une télé là-bas, et j'ai vu mon père, il disait, mon père, c'est pas un voleur, c'est pas un criminel, mettez-moi moi en prison si vous voulez, mais c'est pas mon fils. J'ai eu larmes aux yeux en prison, je dis vraiment, parce qu'ils ont tué quoi, moi ils m'ont formé moi, ils m'ont tué toute ma famille, quoi. Ils ont tué toute ma famille, quoi. Dans le temps, j'ai fait des voyages militaires avec la police, une station qui s'appelait Police Plus. J'avais 18 ans, 19 ans, on est parti en voyage militaire en Roumanie, en Russie. J'ai connaissé des policiers, j'ai une bonne image d'eux, quoi. Je dis voilà, c'est ça va, c'est pas comme. Et là, quand on m'a accusé d'être hors travers, pour ce cas maintenant, dans mon lieu de travail, on voit les RG, on voit la police qui passe tout le temps. C'est vraiment du harcèlement ce qu'ils font, quoi. Là, on est à Longuyo. Bonjour les collègues. On est à Longuyo sur...
Alors tu dis bonjour les collègues, c'est une voiture de police qui vient de passer, c'est ça?
Oui, c'est ça. On est à Longuyo, là. La place de Longuyo, c'est le centre-ville de Longuyo, quoi.
Et ça, c'est un magasin qui appartient à ton frère, alors?
Ils sont trois associés.
Alors voilà Kamel, bref parcours de celui qui est considéré jusqu'à preuve du contraire par la justice comme un incendiaire quand même, hein, ce qui n'est pas rien. En première instance, en septembre 2004, il a été condamné à 3 ans de prison, dont la moitié ferme, et 30 000 euros de dommages et intérêts pour l'incendie qui a ravagé l'usine, donc l'usine d'Iwu. C'est une usine qui fabriquait des tubes cathodiques, et je le disais en appel, c'est en cours. Il semblerait que, mais on ne peut pas augurer encore du jugement qui viendra le 24 mai, mais il semblerait qu'on soit un petit peu en train de reconsidérer cette affaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avec François Ruffin, c'est de faire un peu le paysage, évidemment, autour. Il ne faut pas détourer comme ça les gens. Vous savez, juste faire apparaître une silhouette sur un fond de néant, de vide, comme ça. Donc, on va le voir avec ses copains, ses amis, et puis son histoire qu'il a commencé à évoquer dans cette région de Longwy, qui est une région qui a bougrement morflé entre l'époque des mines, entre l'époque de la sidérurgie, une longue crise qui a duré de 74 à 83. C'est une succession d'ébranlements, de heurts et de violence qui ne manque pas évidemment de se répercuter dans la société, dans la vie des uns avec les autres et dans la vie de chacun. Là donc on est dans un cybercafé, oui, un cybercafé qui est tenu par le frère de Kamel.
4 centimes ?
Oui.
Voilà.
Là, on est donc dans un cybercafé à Longwy, et il y a quatre personnes de Déhou qui se retrouvent dans le cybercafé.
C'est l'endroit où c'est qu'on squatte gratuitement, quoi. Et bon, si, c'est un peu ça, quoi. Parce que bon, si on veut au café, il faut dépenser, et puis pour dépenser, il faut avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut avoir un travail. Et moi, je l'ai pas, tout ça. Alors, c'est pour ça que je viens ici, et je regarde sur Internet ce qu'il y a dans le site, dans les sites de l'NPE.
On les aide beaucoup à faire des CV et tout ça, parce que bon, la plupart ne savent pas faire un CV, alors on leur fait des CV.
C'est mieux que le truc de... que vous en donnez là.
Il y avait un PC pour 450 personnes.
Un PC pour
450 personnes pour faire un CV.
À la cellule de reclassement, ça.
C'est à la cellule de reclassement. Moi, j'étais dans la qualité, contrôleur qualité chez Déhou, j'avais une bonne place et tout. Et puis, c'était une boîte qui était pas mal, parce que c'était à deux pas de chez moi. On partait à pied et tout.
T'habites, c'était à Zup de Mont-Saint-Martin, c'était juste à côté, c'est ça?
Je suis à la Zup de Mont-Saint-Martin. Mais moi, je suis né exprès pour Déhou. Je suis né de Pont-à-Mousson. J'ai déménagé, bah, la boîte a coulé. Et depuis, je suis pas reparti, je suis resté ici, je cherche du travail. Voilà.
T'as déménagé exprès pour être chez Déhou, et puis finalement, tu te retrouves avec le logement, mais plus l'emploi, là.
Oui, c'est ça. Bon, bah, maintenant, je suis chômeur. Dans 6 mois, érémiste.
Et la cellule de reclassement, elle a fait quoi, là?
Ils m'ont juste prolongé mon chômage. Parce que pour me trouver un stage, ils m'en ont pas trouvé. Pour me trouver une formation, ils m'en ont pas trouvé. Pour me trouver du travail, ils m'en ont pas trouvé. Ils m'ont rien proposé, moi. Il y a rien au niveau de mon métier, il y a rien, quoi.
C'est pour ça que tu
veux déménager aussi. C'est pour ça que je pars d'ici, quoi. D'ici un mois, je suis parti d'ici, moi. Je reviens plus ici.
Et tu vas partir où?
Sur Nancy.
Et au niveau logement, tu fais comment pour partir d'un endroit à un autre?
Ben, qu'est-ce que je fais? Je vais en louer un autre, hein. Je vais être obligé d'en priver parce que social, apparemment, il n'y en a plus là-bas.
Ça, c'est quoi? Tu me montres une lettre? C'est quoi?
C'est ma lettre de résiliation de mon contrat de bail qui se trouve à l'adresse de Mont-Saint-Martin.
Et t'es venu ici pour faire une photocopie de ton contrat de résiliation?
Voilà. Et moi, je trouve qu'ici, bon, c'est l'endroit où je dépense le moins. Je te présente un collègue de travail.
Bonjour. Vous avez travaillé chez Déhou également?
Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne trouve pas de boulot à cause de Dayo. Hein. Ça fait 2 ans avec 2 enfants, avec la famille. J'ai ma mère qui est avec moi. Ou en plus avec l'URAMI, que j'ai touché 550 euros. Je paye 280 euros de loyer. C'est pas logique, c'est pas normal. Franchement, des fois, on est déprimé, franchement. Si on est déprimé.
Vous êtes venu téléphoner, c'est ça?
Ouais, je suis venu téléphoner pour les boîtes intérimaires, etc. Mais toujours, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe.
Là, vous venez de téléphoner aux boîtes d'intérim?
Ouais, les boîtes intérimaires.
Et ils vous ont répondu quoi?
Il n'y a rien en ce moment, c'est calme, monsieur, etc.
4,57 €.
4,57 €, vous avez des factures comme ça tous les jours de téléphone?
Oh, c'est pas toujours, mais chaque 3, 4 jours, 5 jours.
Ils téléphonent au Luxembourg, et puis bon, c'est un peu cher les tarifs. Ouais, il y a eu 90 millions d'euros qui a été détourné, ça on n'en parle pas, mais on parle plus de feu que 90 millions. C'est ça que je veux dire, quoi. Et moi, je voudrais avoir les comptes de ce qui s'est passé chez Déhou. Je veux qu'on publie les comptes les sommes qui ont été détournées chez Déhou. Voilà.
Encore un ancien Déhou. Bonjour.
J'étais magasinier, donc, pendant 7 ans et demi. Et bon, ça laisse des traces, hein, une cicatrice. On a beau la refaire, la cicatrice est là. Hein. J'envisageais une carrière. Pendant 7 ans et demi de société, bon, j'étais magasinier, je suis monté en échelon. Surtout que la cellule de reclassement, c'était que du blabla. C'est un peu comme les usines quand ils ont fermé. Cellule de reclassement, c'est tout du pour calmer les gens. Et puis.
Et là, t'as un contrat à durée indéterminée, là, ou bien?
Je suis en contrat intérimaire, mais bon.
Donc c'est un peu un retour à la case départ, comme toi, pour toi?
C'est un retour à la case départ, ouais.
Voilà ce qu'on peut entendre dans ce cybercafé. Alors, pour avoir des chiffres plus précis sur le reclassement des uns et des autres et le bilan social de la faillite d'Iwou, voilà Jean-Claude Fett. Jean-Claude Fett, c'est monsieur statistique, c'est monsieur archive et c'est monsieur précis.
Dans votre masse de documents, là, vous avez les statistiques de la cellule de reclassement de l'usine Déhou.
Oui, donc sur les 500 et quelques salariés de l'entreprise qui étaient là.
Donc là, vous avez un document entre les mains qui est le résultat, la fermeture de la cellule de reclassement.
C'est la synthèse. Hein.
On aperçoit la situation des salariés au 4 mars 2004, c'est-à-dire un an après, donc au moment de la fermeture de la cellule de reclassement. Situation initiale, 533 salariés. Salariés effectivement suivis par la cellule de reclassement, 519. Et alors là, on dit, il est noté qu'il y aurait 297 personnes en solution.
Ce qu'on appelle en solution, de toute façon, c'est pas très compliqué. Ce sont, ce qui pourrait sembler une solution générale et globale là-dessus, c'est le contrat à durée indéterminée. En réalité, c'est annoncé 104 personnes.
104 personnes sur les 533, alors.
Sur les 533, sur les 533 salariés d'origine, et deux tiers qui n'ont pas duré un contrat de durée indéterminée, c'est-à-dire qu'il y en a dedans qui sont en formation, un tiers en gros qui sont en formation, et un tiers qui sont en contrat de durée déterminée ou en contrat de travail temporaire de plus de 6 mois. Donc voilà les trois tiers, comment ils se répartissent. Et puis donc, on a sur les 222 personnes qui sont sans aucune solution. Donc là, ce qui fait donc en gros 40% du personnel qui n'a rien comme solution. À partir du moment où on ne retourne pas, je dirais, pointer à l'Agence pour l'emploi et à la CEDIC au terme d'un stage, donc pour des raisons qui peuvent être la sortie vers un emploi, vers un contrat à durée déterminée, mais qui peuvent être aussi le fait d'être en maladie, le fait d'être enceinte, le fait d'être éventuellement condamné et d'aller en prison, sont considérés comme des sorties positives, comme des solutions.
C'est-à-dire, si on va en prison, c'est considéré, sur le plan des statistiques, comme une solution positive.
C'est considéré comme une solution positive.
Donc, à partir du moment où on va plus pointer, c'est devenu positif.
C'est devenu positif, même si on va au RMI.
Donc, c'est un peu une manière de déguiser les statistiques.
C'est une pratique qui est courante depuis au moins 20 ans.
Une pratique courante depuis au moins 20 ans, eh ben oui. Alors la douloureuse, la note, je rappelle, 220 millions de francs d'aide publique qui se sont évaporés dans l'affaire des Woos, c'est-à-dire environ 46 millions d'euros, ça c'est la note sonnante et trébuchante. Et puis il y a la douloureuse sociale que Monsieur Jean-Claude Fett nous donne sous forme de chiffres et que René Mangin, qui est vice-président du Conseil général de Meurthe et Moselle aux affaires économiques, détaille plus précisément.
Alors, par exemple, pour l'usine qui se trouve à Mont-Saint-Martin, on peut faire un bilan un peu des aides qui ont été versées par les différentes collectivités?
Bah écoutez, sur un investissement total de 750 millions de francs, donc 115 millions d'euros, le département a versé 1,54 million d'euros, la région 10 millions d'euros, l'État sous forme de prime à l'aménagement du territoire plus de 13 millions d'euros, et le FEDER, donc les fonds européens pour les régions, à 16 millions d'euros. Là, je parle de ce qui concerne Mont-Saint-Martin.
Donc au total, ça fait 110 millions de francs, plus 90, ça fait 200 millions de francs, 220 millions de francs qui ont été versés pour l'implantation de l'usine Daewoo Orion à Mont-Saint-Martin.
Tout à fait, ce sont des sommes énormes sur lesquelles, malheureusement, nous n'avons pu avoir de compte-rendu de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient mangé le miel, les abeilles ont été essaimées ailleurs.
Que sont devenus les gens qui étaient employés à Mont-Saint-Martin?
Bien sûr.
Alors, vous tournez, c'est une note d'information qui vous était faite.
Une note d'information qui est en date de 2004, de la mi-2004.
Alors là, la situation des salariés, c'est la situation des salariés au 4 mars 2004, c'est-à-dire lors des derniers moments de la cellule de reclassement.
Tout à fait, puisque la cellule de reclassement, ne fonctionne plus, elle est arrêtée. Donc on est là sur les derniers chiffres connus, et qui donnent sur une situation de 533 salariés, j'ai les chiffres sous les yeux, salariés suivis dans une cellule de reclassement 519, on est à 297 personnes entre guillemets en solution, c'est-à-dire CDD, CDI, formation reconversion, création d'entreprise, situation emploi, et 222 personnes, ce qui est quand même énorme, sans solution, c'est-à-dire certaines proches de l'emploi, d'autres en démarche de recherche d'emploi, d'autres de projets à finaliser, voire même simplement d'inactifs dans leur recherche. Donc c'est clair.
Sur les 533 salariés, il y en a 104 qui ont retrouvé un contrat à durée indéterminée.
Voilà, on peut dire qu'il y en a 104 qui sont en CDI, Dans cette région-là, on ne peut pas s'en satisfaire, mais dans cette région-là, c'est presque remarquable.
Alors, en solution, ça reste des solutions souvent précaires, malgré tout. Enfin, quand on regarde les statistiques, c'est quand même 104 personnes qui ont une solution stable en contrat à durée indéterminée. Le reste, c'est en solution, mais c'est quand même des CDD. Je vois des formations de reconversion, des créations d'entreprises, des situations hors emploi. C'est pas l'emploi tel que on l'imagine traditionnellement.
C'est sans doute vrai, mais comme je vous le rappelle, on est là dans un bassin extrêmement touché, extrêmement difficile, très touché par le chômage. On a un taux énorme de chômeurs dans le nord du département. Avec cette bouffée d'espoir, parfois, cette bouffée d'oxygène que peut être le travail transfrontalier, tant sur la Belgique, le Luxembourg que l'Allemagne, mais notamment le Luxembourg. Donc on peut imaginer que les personnes formées, peut-être voire même en création d'entreprise, auront forcément des débouchés à terme sur l'année ou sur l'année et demie, quoi, disons dans les 18 mois.
C'est encore quelque chose, c'est quoi ici? C'est la mairie, d'accord. C'est marrant, les pierres elles ont toujours un aspect un peu gris. Hein.
Ouais, c'est que. Moi je suis habitué, mais quand il y a des personnes qui viennent d'autres villes, ils me disent comme quoi la rue c'est gris.
Là on arrive devant l'usine, c'est marqué Bienvenue Dewoo Orion Société Anonyme. Sur le mur c'est marqué quoi? C'est marqué
Dewoo Voleur est un complice.
Devant nous, c'est un château d'eau rond, et dessus, il y a marqué PED.
Ben, PED, c'est les initiales donc, du Pôle Européen de Développement, donc, qui a été initié en 1985, et que Jacques Delors, qui est alors président de la Commission européenne, avait appelé le laboratoire de l'Europe au millième, c'est-à-dire que ce qui devait se faire à Longwy, l'objectif était de créer 8000 emplois en 10 ans sur les trois pays, à savoir 5500 emplois du côté français, 1500 du côté belge, et 1000 du côté luxembourgeois.
Sur les 5500 emplois promis, il y en a eu combien de réalisés?
Réellement créés et existants aujourd'hui encore, on est dans l'ordre de 1500 emplois, 20 ans après l'effet de ce plan.
C'est-à-dire qu'il y a 20 000 emplois détruits dans la sidérurgie, promesse de 5 000 emplois sur le bassin de Longwy, et en réalité, 20 ans après, 1500 emplois.
Voilà, c'est ça.
Bon ben voilà, le pôle européen de développement n'a pas rempli les espoirs qu'on avait placés. Ça peut rendre des fois un petit peu sceptique sur les projets qu'on peut faire avec l'Europe. On est avec Kamel, on n'est pas avec Kim, mais on va le retrouver demain, Kim, Monsieur Kim Woon-chung. Là, j'ai un petit détail, par exemple, c'est un escroc absolument fabuleux quand même, hein, ça devient là du grand art. Par exemple, en 2003, au moment de l'incendie de l'usine Dewood à Mont-Saint-Martin, eh ben, il obtenait, lui, son numéro de sécurité sociale. Ben oui, voilà, c'est tombé en même temps. On continue, et là, on va chez Tartine Shop. Vous ne connaissez pas Tartine Shop à Longwy? Eh ben, c'est ici.
Un diabolement, un autre qui arrive. Non, il a pris.
Un sandwich pour lui.
Un sandwich pour lui. Et moi,
Je m'appelle Claude.
Et votre boulot avant, c'était?
Au fourniste, informaticien sur les hauts fourneaux de Longwy.
Vous avez des photos au mur?
Alors là, c'est les deux hauts fourneaux qui restaient encore debout, qui ont été couchés maintenant. Au fourneau 3 et au fourneau 4 de Senel à Longwy. Et la photo du bas, c'est la dernière coulée du haut fourneau 6 de Senel.
Et vous avez travaillé dans l'un de ces hauts fourneaux?
Oui, deux hauts fourneaux de Senel et le haut fourneau de Ruon.
Et vous avez quitté la sidérurgie en quelle année?
En 88. J'étais syndicaliste depuis une quinzaine d'années. À force de me battre et tout ça, j'en ai eu un petit peu marre, qui casse tout. Alors j'ai démissionné et j'ai ouvert le restaurant.
Qui casse tout? Que qui casse tout?
Ah, qui casse tout? Le système a tout cassé. C'était prévu depuis longtemps. C'est une affaire européenne, on le savait. Enfin, on s'est battu quand même très très bien pendant quelques années.
Et il y a beaucoup de sidérurgistes qui, comme ça, sont devenus commerçants dans votre connaissance?
Relativement peu, ont tenu le choc.
Il y a eu beaucoup de tentatives de création d'entreprises et peu ont tenu sur la durée.
Moi, ouais, tout à fait.
T'as besoin d'une fiche, mon grand? Oui, c'est possible.
Hein? Voilà. Comment ça se passe chez Tartine Shop, chez Jean-Claude. Et voilà, par hasard, Jean-Luc de Haye, qui est prof à l'IUT et qui donne son analyse.
Donc là, on est à Tartine Shop, On a discuté avec le patron qui est un ancien sidérurgiste. Et là, par hasard, on a rencontré Jean-Luc, qui est justement l'auteur d'une thèse sur les enfants de sidérurgistes.
Ouais, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour toute une génération d'enfants de sidérurgistes. Donc c'est toute une génération qui a connu les fermetures d'usines. Dans la dynamique, même si c'est un peu réducteur, quoi, on disait que dans la sidérurgie, le grand-père sert l'usine, le fils s'en sert... Et le petit-fils en sort, quoi. Et à chaque génération, il y a des nouvelles vagues d'immigration, souvent, qui occupent les postes les moins qualifiés, puis la dynamique repart. Alors, cette dynamique, c'est un petit peu exagéré.
Ça veut dire quoi, s'en sert, le fils s'en sert?
Ça veut dire que le fils rentre dans l'usine, mais qui gravit les échelons, qui devient ouvrier professionnel ou technicien, et il n'est pas ouvrier spécialisé dans l'usine.
Alors, dans ce cadre-là, à partir du moment où les usines commencent à fermer, comment s'en sortent les enfants de sidérurgie?
10 ou 15 ans après les fermetures d'usines, par exemple, quand tu avais les reportages dominants à la radio ou dans les journaux, c'était toujours qu'est-ce que vont devenir les enfants de sidérurgistes puisqu'ils ne peuvent plus rentrer dans la sidérurgie. Mais en fait, déjà bien avant, ils ne rentraient pas tous dans la sidérurgie. Il y avait déjà des sorties, ce n'était pas aussi automatique que ça. Quoi. L'ambition de tous les parents, ce n'était pas obligatoirement que leurs enfants y rentrent dans la sidérurgie. Bon, par contre, quand les usines ferment, ça bloque.
On a rencontré aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais Kamel Belkadi. Le père de Kamel travaillait dans la fonderie et donc c'était un ouvrier spécialisé.
Alors bon, je le connais un petit peu, mais je peux pas dire lui, il est comme ça pour ça. Hein. Je peux juste dire en termes de profil, quoi. Pour ceux qui sont des fins 60, début 70, il y a une assez forte mobilisation scolaire. C'est-à-dire que paradoxalement, les enfants d'ouvriers spécialisés, ils se saisissent plus vite des possibilités de l'allongement scolaire que les enfants d'ouvriers professionnels. Les enfants d'ouvriers professionnels, souvent, ils se replient vers les filières les plus connues, ou alors ça peut être la police ou l'armée. Alors que les enfants d'ouvriers spécialisés, pour qui il n'y a pas obligatoirement cette transmission, ils investissent beaucoup plus dans l'école. Quoi. Alors dans cette période-là, ça divise un peu le groupe des enfants d'ouvriers spécialisés en deux. Quoi. Il y a une partie qui prolonge les études, et puis une partie bon, qui est éliminée assez rapidement par l'école, et qui est prise en charge par tout un appareil.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la sélection se fait par l'école. Il y a d'un côté ceux qui réussissent scolairement, d'un autre côté ceux qui échouent. Il y a une fracture à l'intérieur de...
À l'intérieur de ce groupe-là. Hein, c'est, voilà. Et ceux qui réussissent pas par l'école, ils sont pris en charge par tout un appareil comme ça local. C'est-à-dire qu'il y a t'as plein de stages d'insertion, t'as la mission locale, t'as l'agence pour l'emploi, des petits sas comme ça entre l'école et l'emploi, t'as des associations. Enfin, on pourrait mettre aussi la sphère privée. Hein, il y a l'intérim qui joue dedans. Enfin, c'est toute une gestion de la précarité. Oui.
Tout ça se développe dans le courant des années 80.
Voilà, hein, ça démarre dans les années 80. Et on pourrait presque toi inverser les choses en disant que le nouvel employeur, ça devient cet ensemble d'organismes. Là, et de temps en temps, il délègue à des entreprises provisoirement installées là, toi par exemple DEU là dans le Cala ou JVC, ils leur délèguent ceux qu'ils ont pris en charge dans le cadre des stages d'insertion, quitte à les récupérer après dans les plans sociaux, quoi.
C'est-à-dire que finalement le passage en entreprise, c'est juste une étape parmi la succession des stages.
Voilà, hein, t'as un mélange d'inactivité, de chômage, de précarité, d'emploi, de scolarisation, et on peut inverser les rôles. Quoi. On peut presque dire que l'employeur c'est l'espèce d'appareil local qui assure une tutelle de proximité, un contrôle social de proximité, et l'entreprise elle ne fait que recevoir les gens et puis les renvoyer quand elle repart. Quoi.
Alors là, on est toujours chez Tartine Shop. Là, vous êtes cinq copains, vous revenez d'un match de foot, c'est ça?
C'est ça, oui. C'était au lycée technique, donc rencontre organisée depuis X années.
Alors, qui est enfant de sidérurgiste ici autour de la table?
Moi. Donc mon père a travaillé dans plusieurs entreprises. Il a commencé dans les années 50, début des années 50. Il était conducteur de train.
Votre père était sidérurgiste également?
Ouais. Mon père était sidérurgiste depuis avant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à en 1987 où il a été en pré-retraite donc.
Mon père en fait il a été sidérurgiste et il a terminé en 83 en travaillant à l'usine à Gorcy en tant que graisseur en fait.
Jean-Claude, qu'est-ce que tu dis?
Mon père était aussi sidérurgiste, mon grand-père était sidérurgiste.
On s'en rappelle encore aujourd'hui parce qu'il y a encore des gens qui sont encore touchés, je dirais, par l'usine. Par exemple, mon père est décédé l'année dernière de l'amiante. Donc c'est toute l'amiante qu'il avait respiré à l'usine, et puis il est décédé l'année dernière donc d'un cancer qui était lié à tout ce qu'il avait. Donc même 20 ans après, on a encore, l'usine qui est encore là, quoi, hein, qui est encore dans les gens et qui encore agit, quoi.
Je vois que par là, il y a l'histoire vivante de la sidérurgie sur Longwy.
Et ouais, je disais que on sent bien qu'on n'est plus dans le même temps, hein, puisque aujourd'hui il y a une personne toute seule qui est en train de se débattre avec la justice et qui est emprisonnée, etc. Or à Longwy, à l'époque, quand il y a eu la fermeture des usines, il y avait énormément d'événements qui se passaient, mais de façon collective. Par exemple, il y avait une radio locale qui était complètement interdite. C'était LCA, Radio Lorraine Cœur d'Acier. Et il y avait des gens donc qui faisaient des choses qui étaient, c'était complètement interdit. Je me souviens, quand ils ont vidé la maison de la sidérurgie, ils jetaient les bureaux par les fenêtres, ils mettaient le feu aux maisons, etc. etc.
C'était public, ça?
Et ça, c'était public. Moi, j'étais jeune, je regardais ce qui se passait devant moi. Et en tout cas, il n'y a jamais eu de vraies conséquences comme aujourd'hui, où il est vraiment obligé aujourd'hui de se défendre tout seul face à la justice. À l'époque-là, il y avait toute une puissance collective derrière.
1984, il y a eu entre autres un ancien château de la direction qui a été incendié. Ça a fait les grands titres de François, de Parisien, même l'aurait pu et tout ça à l'époque en 84. Mais il n'y a pas eu spécialement d'autres conséquences là-dessus.
Il n'y a pas eu de procès.
Il y a eu quelques gardes à vue qui se sont arrêtés rapidement, mais il y avait des menaces très fortes, puisqu'en face, c'était quand même, il y avait les bulldozers et tout ça qui risquaient d'intervenir, ou les rouleaux de feuillards qui étaient déroulés dans toutes les rues.
C'est-à-dire que c'était les syndicats qui avaient déployé les bulldozers
C'était ambiance avec les hélicoptères qui tournaient au-dessus de Longwy pour brouiller justement la radio, l'hélicoptère en permanence, donc qui tournait au-dessus de nos têtes. Il y avait des moments, par exemple, où on pouvait plus accéder à Longwy parce qu'il y avait plus de rails. Les rails avaient été enlevés. On ne pouvait plus circuler en véhicule à l'intérieur de Longwy parce qu'il y avait du feuillard de déverser sur toutes les routes. Donc, on pouvait plus se déplacer en véhicule, etc., etc. Donc, tout ça, ça faisait une ambiance à Longwy où tout le monde se retrouvait dans la rue, d'accord, à pied.
Et toi, t'avais quel âge à cette époque-là?
15 ans. Quand on regardait la charge des CRS qui tapaient sur leur bouclier, comme ça, tout doucement, ça commence tout doucement, pouf, pouf. Puis qui commence à courir à fond, tout ça, tout le monde se sauvait, etc., etc. Quand on avait les gaz lacrymogènes de Longwy-Ba qui nous aveuglaient à Longwy-Haut, enfin bon, il y avait toute une ambiance comme ça. Ça, moi j'étais au lycée donc ici à Longwy, et à l'époque on se mettait devant la porte du lycée, on disait on fait grève, il y avait personne qui rentrait à l'intérieur du lycée, quoi. Après on allait chercher ceux du lycée technique, puis on allait rejoindre les sidérurgistes qui étaient en manifestation dans la rue.
Ce qui fait que ces gens-là n'étaient pas poursuivis alors qu'aujourd'hui c'est poursuivi, c'est le rapport de force un peu qui s'est inversé.
Ouais, c'est le rapport de force. Il n'y a plus, en tout cas, de mouvements complètement cohérents pour pouvoir défendre des actions collectives.
Sur 79, il y avait des milliers de personnes quand il y avait des actions dures. Puisque bon, les actions dures, c'était aussi des attaques de commissariat. Et en 79, il y avait quand même eu 4 attaques de commissariat.
La Banque de France.
Il y a eu la Banque de France qui avait été attaquée, le Centre des impôts. De même que les CRS qui étaient empêchés de rentrer dans Longwy et tout ça. Donc il y avait le relais de télé qui a été pris en otage, qui était transformé en télé libre pendant une semaine.
Les télés, c'est France 3 par exemple?
C'était l'émetteur de toutes les télés ici, qui a été bloqué, et où ensuite passaient des diapositives avec des textes pendant tout le temps où ça a été occupé.
C'était un territoire libéré ou un territoire soviétique en plein cœur de la France là.
C'était ce qui avait été surnommé par Le Monde à l'époque, qui n'était pas colombaniesque. C'était ce qu'ils appelaient la République populaire de Longwy. C'est-à-dire que la police n'apparaissait plus vraiment dans les rues. C'était une espèce d'autocontrôle dans ce qui était possible de faire.
À cette époque-là, il y avait des milliers de personnes, 3 ou 4 000 personnes.
Ouais, il y avait 20 000 personnes dehors. Hein.
Il y avait 20 000 personnes dehors. Et aujourd'hui, alors, quand Kamel est pris en garde à vue, quand il y a la secrétaire de l'Union locale qui est également en garde à vue, combien il y a de personnes pour se rassembler devant le commissariat?
Bah, cette fois-là, on était une trentaine. Une trentaine pour 4 gardes à vue, dont la secrétaire de l'Union locale CGT.
Voilà, tiens,
allez!
Moi, je vous souhaite une bonne nuit.
Bah,
vous aussi.
Bah, oui. Ciao.
Le bonsoir à la Françoise.
Et on va être tout coupé, je sais comment c'est.
Je l'ai idée enlevée, c'est pas une blague alors.
Non,
c'est du vrai, c'est du février 79, ça.
Ouais.
Ça, c'est clair.
Ouais. Il a été solidaire, tout ça, avec les sidérurgistes.
Voilà, c'est ce qu'il a dit.
Mitterrand en 82 qui a dit on déboulera.
80, septembre 80.
Tu l'as dit ça, au micro. On ne déboulonnera pas un seul truc, tout ça. Mais c'est tous descendus du lycée en cortège pour écouter Mitterrand.
Qu'est-ce qu'il a dit Mitterrand? Qu'est-ce qu'il a dit Mitterrand en 82?
Il a dit. Voilà, pas une vis, pas un boulon seront démontés des usines de Longwy.
Sans qu'un autre emploi
donc sera créé à côté. Voilà ce qu'il avait dit. On était tous descendus en cortège, je me souviens, du lycée, à pied jusqu'à Longwy-Bas. Son hélicoptère était arrivé, on l'avait écouté, tout ça, voilà.
Et il s'était trompé dans son discours, il n'avait pas dit le mot Longwy, il avait dit Thionville.
Voilà.
Très bien. Bon bah écoutez, on va y aller parce que là.
Ouais, il fait un peu froid. Hein? Allez, bonsoir.
Au revoir, salut.
Merci à tous, merci à Olivier, à Kamel Belkadi, Jean-Claude Fett, Isabelle Banni, Patrick Gaspard, Jean-Claude et la bande de Tartine Shop, Jean-Luc Dehay et les habitués du taxiphone et aussi René Mangin. C'était un reportage de François Ruffin. À lire le livre de François Bon, Diwou, aux éditions Fayard. Et pour soutenir Kamel Belkadi, écrire à ULCGT Longwy, 132 rue de Metz, 54 403 Longwy, ou par email ulcgtlongwy, @wordonline.fr. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. À la rubrique émission Là-bas si j'y suis, technique aujourd'hui Jessica Fouché et Jean-Philippe Jeanne, l'équipe de Là-bas si j'y suis, Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur c'est 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37 et le mail daniel.mermet@radiofrance.com. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis, toujours en Lorraine avec l'affaire Diwou. Dans un instant, au bout de 51 secondes de pub, vous retrouvez Frédéric Bonneau et Charivari. À demain, 17h. Salut.